Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la sainte sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 3 mars 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Le tourisme israélien touche le fond. Les voyageurs refusent de payer pour le génocide à Gaza. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les évolutions dans la bande de Gaza, 14 morts dans une frappe israélienne contre Rafah. Le Hezbollah libanais force des milliers de colons israéliens à fuir. Et puis les élections en Iran, nouveaux membres du Parlement et de l'Assemblée des experts élus par le suffrage universel. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Au moins 14 Palestiniens ont été tués dans une attaque israélienne contre un quartier de Rafah, la ville située à l'extrémité sud de Gaza, alors que le bilan des morts dans ce territoire déchiré par la guerre s'élève à 30 410. L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté que des dizaines de personnes avaient également été blessées dans l'attaque lorsque des avions de chasse israéliens ont bombardé samedi soir la maison à 3 étages de la famille Abu Hanza dans le quartier d'Al-Salam à l'est de Rafah. Israël intensifie son attaque contre Rafah, faisant au moins 11 morts dans une frappe aérienne contre des tentes abritant des civils déplacés près d'un hôpital à Rafah, samedi. On estime que 1,4 million de Palestiniens, pour la plupart des personnes déplacées ayant fui les attaques dans le nord, se sont entassés à Rafah. La ville fait face à une menace imminente d'invasion terrestre israélienne malgré les sévères avertissements sur les conséquences d'une telle offensive. Les forces israéliennes ont également lancé samedi soir une violente attaque aérienne et d'artillerie contre le nord de Khan Younes. Simultanément, ils ont avancé vers les tours Hamad, déclenchant un barrage d'obus et visant les maisons palestiniennes toujours. Par ailleurs, un certain nombre de Palestiniens ont été tués ou blessés lors d'une attaque contre une maison résidentielle située au corps de camp de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Les forces israéliennes ont également lancé un raid à l'ouest du camp de Nusayrat, au centre de la bande de Gaza, faisant de nombreuses victimes. Parallèlement, les exactions israéliennes continuent en Cisjordanie occupée. Les pourparlers de trêve devraient reprendre dimanche au Caire, capitale égyptienne. Cependant, les détails, au-delà d'une éventuelle cessation des hostilités de 6 semaines, restent incertains, malgré les allégations des responsables américains, qui prétendent qu'Israël a plus ou moins accepté un accord cadre et qu'un cessez-le-feu est imminent. Si l'ennemi envisage de mener une guerre contre le Liban, nous combattrons sans retenue, sans règles, sans limites et sans restrictions. C'est ce qu'a réaffirmé Seyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du mouvement de la résistance islamique libanaise Hezbollah, depuis le lancement de l'opération de résistance palestinienne Tempête d'Al-Aqsa, baptisée également le déluge d'Al-Aqsa contre l'occupation israélienne. Le mouvement de la résistance islamique libanaise Hezbollah n'a cessé de faire pleuvoir des roquettes et des missiles anti-chars sur des cibles israéliennes dans le nord d'Israël, détruisant des infrastructures militaires critiques et obligeant des milliers de colons à fuir. En fait, le Hezbollah libanais a tiré 30 roquettes début février sur un camp d'entraînement des militaires israéliens sur le plateau du Golan occupé, marquant sa 100e opération. Le Hezbollah est souvent capable de mener plusieurs opérations importantes en une seule journée. La résistance libanaise a par exemple lancé 13 attaques à la roquette contre les régions occupées du nord en quelques heures. À la suite de l'opération du Hezbollah, le régime de Tel Aviv a frappé des infrastructures civiles dans le sud du Liban et lancé des attaques de drones pour assassiner les commandants du Hezbollah. Cependant, malgré les protestations des colons du nord désormais déplacés, le régime d'occupation a refusé d'entrer en guerre contre le Hezbollah, bien qu'il ait menacé à plusieurs reprises de le faire depuis octobre. Une délégation du Hamas en visite au Caire pour des négociations sur un cessez-le-feu arrive au Caire. Les négociateurs du Hamas arrivent ce dimanche 3 mars au Caire pour reprendre le dialogue sur une possible trêve avec le régime israélien, a rapporté la chaîne libanaise Al-Mayadeen. Des sources au sein de la direction de la résistance palestinienne ont révélé à Al-Mayadeen certains des détails clés des négociations en cours entre la résistance et le régime d'occupation sioniste. Le cadre d'un accord se compose de 3 étapes où les détails et les clauses de chaque étape seront négociés séparément. La durée des trêves proposées varie entre 40 et 45 jours chacune, ont confirmé les sources d'Al-Mayadeen. Aucun accord n'a été conclu pour l'instant, mais les représentants de la résistance devraient faire le point sur les progrès des efforts déployés par les médiateurs au cours des dernières semaines, à une période cruciale à l'approche du mois béni du Ramadan. Enfin, en Iran, nouveaux membres du Parlement et de l'Assemblée des experts élus par le suffrage universel. Le 1er mars, les Iraniens se sont rendus aux urnes à travers les pays pour voter lors de 2 élections clés. La nation a élu ainsi les nouveaux membres du Parlement et de l'Assemblée des experts. Au cours des 45 dernières années, les élections ont constitué un pilier essentiel de la démocratie iranienne, donnant au public le droit de déterminer comment devrait être la gestion des affaires du pays. Priant dans la grande mosquée d'Alger, aux côtés des musulmans algériens, le président iranien a appelé à la solidarité du monde d'islam et à la sensibilisation sur la crise de Gaza. Lors de sa visite dans la grande mosquée d'Alger, le président Raïsi a insisté sur la similarité entre les positions de l'Iran et d'Algérie à l'égard de la cause palestinienne. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Le tourisme israélien touche le fond. Les voyageurs refusent de payer pour le génocide à Gaza. Les compagnies aériennes hésitent à reprendre leurs vols. Les sites touristiques se sont effondrés et les hôtels sont vides, paralysant l'industrie touristique autrefois florissante du régime israélien. Les chiffres mensuels annoncés par le Bureau central des statistiques d'Israël, BCS, ont révélé que le mois dernier, seules 500 visites d'une journée dans les territoires occupés de la Palestine ont été enregistrées, contre 14 000 en janvier 2023, soit une baisse drastique de 96%. La guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza, qui en est maintenant à son 5e mois, a eu de lourds impacts sur son économie, la guerre, selon le ministère israélien des Finances, lui coûtera probablement environ 13,8 milliards de dollars. En novembre, la Banque d'Israël a réduit ses estimations de croissance économique annuelle à 2% pour 2023-2024 contre 2,3% et 2,8% pour les années précédentes. Selon le Bureau central des statistiques, au cours du quatrième trimestre 2023, l'économie israélienne a reculé à un taux annuel de 20%. Cela intervient alors que l'agression israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée continue de coûter la vie à des civils. Selon le dernier bilan, environ 30 000 Palestiniens ont perdu la vie depuis le 7 octobre. Une crise humanitaire sévit à Gaza. L'industrie du tourisme tombe en lambeaux. Le secteur touristique israélien est celui qui a le plus souffert, car le tourisme dans les territoires occupés de la Palestine est resté stable depuis le début de la guerre, sortant à peine du choc du Covid-19. L'industrie du tourisme représentait près de 3% du PIB du régime de Tel Aviv avant la pandémie de 2019. Ce chiffre est tombé à 1,1% en 2021 et depuis, le secteur n'a pas réussi à rebondir. La guerre a éclaté au cours du trimestre le plus touristique de l'année pour Israël qui comprend les vacances de Noël et du Nouvel An. Cependant, fin 2023, seuls 3 millions de touristes ont visité les territoires occupés de la Palestine contre 5,5 millions précédemment anticipés par les responsables, indiquait le ministère israélien du tourisme. Avant l'opération tempête d'Al-Aqsa, lancée par le mouvement de résistance islamique de la Palestine, le Hamas siégé à Gaza le 7 octobre, le nombre des touristes qui visitaient des territoires occupés de la Palestine s'estimait à plus de 300 000 chaque mois. En novembre, ce chiffre a chuté pour atteindre les 39 000 visiteurs. Le quotidien israélien Kalkalist a rapporté en janvier que, alors que 900 000 touristes étaient attendus dans les trois mois qui ont suivi le début de la guerre à Gaza, leur nombre a baissé à 190 000. Les hôtels de la vieille ville de Rhodes occupés seraient fermés depuis des mois et d'autres reçoivent des fonds du régime occupant pour loger les colons déplacés par la guerre. Marva Taha Abourani, directrice de l'auberge Fozi Hazar dans la vieille ville occupée de Rhodes, a déclaré à l'AFP qu'après le début de la guerre en octobre, toutes les réservations futures avaient été annulées. « Nous ne travaillons pas du tout, il n'y a personne », a-t-il dit. L'effondrement du secteur du tourisme a mis au chômage les guides touristiques, le personnel des hôtels, les chauffeurs de bus et autres. Pourquoi le tourisme est en baisse? Le secteur du tourisme disparaît en partie parce que la plupart des compagnies aériennes internationales ont immédiatement cloué au sol leurs vols vers Tel Aviv, après le déclenchement de la guerre. Le refus des compagnies aériennes à bas prix, et en particulier des grandes compagnies aériennes américaines, de reprendre leurs vols vers les territoires occupés de la Palestine, combiné au prix élevé annoncé par la compagnie israélienne El Al, a sonné le glas de l'économie du régime israélien en général et du secteur du tourisme en particulier. La semaine dernière, le directeur général de la Chambre des organisateurs du tourisme, récepteur, Youssef Attal, a déclaré au journal israélien Ma'ariv que le régime de Tel Aviv était devenu isolé comme la Corée du Nord, car les compagnies aériennes hésitent à reprendre leurs vols vers les territoires occupés. Avant la crise, 250 compagnies aériennes opéraient en Israël, territoires occupés. Et aujourd'hui, seules 45 compagnies opèrent, a reconnu Fatal, ajoutant qu'actuellement 80% des vols sont opérés par un avion israélien appartenant à la compagnie El Al. Il a comparé le régime israélien à la Corée du Nord, l'un des pays les plus isolés au monde, selon ses mots. Dans un rapport publié en novembre, Socret Flight, un site web qui suit les données de vol, a révélé une baisse moyenne de 80% des vols à destination et en provenance de l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv depuis le 7 octobre. Les chiffres montrent que 100 vols par jour ont atterri à l'aéroport Ben Gurion entre octobre et novembre, contre 500 vols quotidiens auparavant. Fatal a indiqué que la chute vertigineuse du secteur touristique israélien est une victoire du Hamas sur Israël. De plus, l'appel à la guerre de milliers de réservistes israéliens qui ont quitté leur emploi a mis un frein à l'industrie du voyage tout en faisant payer un lourd tribut aux autres secteurs. Les opérations menées par les groupes de résistance palestiniens et régionaux, notamment le Hamas, le djihad islamique de la Palestine, le Hezbollah, la résistance islamique en Irak et l'armée yéménite, en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, ont également contribué au désastre économique auquel le régime sioniste est confronté dans la conjoncture actuelle. Pour inverser la tendance, les responsables du tourisme israélien ont imploré leurs sponsors étrangers d'aider à relancer le secteur, alors même que la guerre génocidaire contre Gaza fait rage. Le régime israélien a fait la promotion de son tourisme lors d'un salon du voyage à Washington DC qui a été perturbé par des militants pro-palestiniens pour attirer l'attention sur la guerre en cours contre Gaza. Le groupe anti-guerre basé aux États-Unis, Code Pink, s'est adressé à X, anciennement Twitter, pour annoncer que le régime israélien faisait la promotion du tourisme lors d'une convention à Washington DC, ce qui n'a pas fonctionné. Les deux journées ont été perturbées d'abord par activistes Samar et William Langhorn, puis par Danaka Kotovic, co-directeur de Code Pink, a posté le groupe sur X mardi. Épée de fer, une équipe d'intervention d'urgence en Israël propose une expérience de tourisme solidaire sur son compte Facebook, exhortant les gens à se rendre dans les territoires occupés de la Palestine. Cependant, ces offres ne trouvent aucun preneur car le régime sioniste a été démasqué.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 2 mars 2024. Nous allons se focaliser à cette occasion au crime de guerre israélien en cours toujours à Gaza avec un nouveau crime dans le cadre d'une catastrophe de trop, déjà trop en cours dans la bande de Gaza. Avec nos deux experts qui nous rejoignent par Skype, nous allons nous intéresser à ce drame, nouveau drame, dans le cadre d'une crise humanitaire qui touche la bande de Gaza avec la mort d'au moins 112 personnes provoquée par une bousculade survenue alors selon la version fausse israélienne dans la bande de Gaza visant les gens qui cherchaient de l'aide humanitaire, les gens affamés, une foule affamée et que Israël, les militaires israéliens ont tiré dessus. On se retrouve tout de suite après un reportage, restez avec nous.
Les condamnations affluent du monde entier suite au massacre par Israël de plus de 100 Palestiniens qui attendaient une aide humanitaire vitale dans le nord de Gaza. L'Iran a fustigé les États-Unis et l'Europe pour leur silence sur le génocide à Gaza, après que les forces israéliennes ont tiré sur des Palestiniens venus chercher de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et tué plus de 100 d'entre eux. Plus de 100 citoyens palestiniens qui faisaient la queue pour recevoir une aide humanitaire dans la rue Al-Rachid à Gaza sont tombés en martyrs. Plus de 800 personnes ont été blessées à cause de l'attaque barbare du régime sioniste, a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, sur X. La blessure de Gaza ne sera pas effacée de la mémoire des peuples libres du monde. et la honte de soutenir et de garder le silence face au massacre et au génocide des Palestiniens par le régime criminel sioniste sera évidente sur le front des faux champions des droits de l'homme aux États-Unis et en Europe. Plus de 100 Palestiniens ont été tués et des centaines d'autres blessés. Lorsque les forces israéliennes ont tiré sur la population, a déclaré le ministère palestinien de la Santé, qualifiant l'incident de massacre. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA a décrit la situation de la sécurité alimentaire comme extrêmement critique à travers Gaza, en particulier dans le nord de Gaza. Selon le Programme alimentaire mondial PAM, aucun groupe humanitaire n'était en mesure d'acheminer de l'aide dans le nord depuis plus d'un mois. L'agence a accusé Israël de bloquer l'accès. La fusillade dans la ville de Gaza alourdit le bilan des victimes palestiniennes de la guerre israélienne, qui, selon le ministère de la Santé, a dépassé les 30 000 martyrs ce jeudi 29 février. Cela intervient après que les médiateurs ont déclaré qu'un accord de trêve entre Israël et le Hamas pourrait être conclu d'ici quelques jours.
Voilà, j'ai le grand plaisir de recevoir sur notre plateau par Skype Madame Dr Aïssar Midani, scientifique et militante franco-syrienne, analyste politique et spécialiste au Moyen-Orient. Bonjour, bienvenue Aïssar.
Bonjour Zahra, et bonjour à vous et à Madame Oubala, avec qui j'ai le plaisir d'être aussi sur votre antenne. Bonjour à tous les... Bonjour à tous les téléspectateurs aussi de Presse TV.
Oui, bonjour à Madame Ghada Hopalla qui nous rejoint depuis Beyrouth, chercheuse enseignante à l'Université islamique de Beyrouth. Bienvenue Madame Hopalla, merci d'avoir accepté notre invitation.
Alors merci encore une fois de m'avoir invitée sur le plateau de Presse TV. Et je salue notre collègue et ami, Madame Lamy aussi, avec qui c'est un plaisir également d'être toujours de partager un débat avec elle. Et donc, je vous écoute.
Alors, heureuse de vous retrouver. Émoi international, je disais, après un bain de sang à l'arrivée d'un convoi d'aide humanitaire dans la bande de Gaza qui se trouve en crise humanitaire absolue, en une crise humanitaire absolue. Alors, les images de la bousculade qui a coûté la vie à au moins 112 personnes et qui a fait plus de 800 blessés jeudi dans le nord de la bande de Gaza ont provoqué la sidération dans les capitales arabes, occidentales, enfin des États-Unis, depuis les États-Unis même et la France, d'Emmanuel Macron aussi, ainsi qu'à l'ONU où le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence. Alors, l'Iran a déjà dénoncé le mutisme et l'inaction des pays alliés d'Israël, les États-Unis et de l'Europe. Pour le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, Aïssar Midani, on commence par vous. Pour la résistance palestinienne qui gouverne Gaza, ce sont donc les tirs israéliens qui ont provoqué cette bousculade sanglante. Je vous laisse réagir.
En effet, Israël continue un carnage absolument immonde. Il faut quand même rappeler que les bombardements n'ont même pas cessé. Ils continuent à bombarder nuit et jour les différentes positions, les différents secteurs de Gaza. Et ils ont, après avoir détruit non seulement les hôpitaux, les voitures d'urgence, les ambulances, les centres d'hébergement, les lieux de culte, les églises, les mosquées, en plus de toutes les maisons, les habitations de toutes les de la majorité des personnes. On dit qu'il y a plus de 75% des immeubles à Gaza ont été détruits. Donc en fait, l'objectif c'est effectivement un génocide absolument immonde qui se déroule sous nos yeux, sous les yeux du monde entier, avec un soutien criminel des États-Unis à cette entreprise, avec un silence complètement incroyable de tout un tas de pays, en fait, qui sont les pays occidentaux affiliés aux États-Unis, affiliés à l'OTAN, une incapacité des organismes internationaux à stopper, puisque tout ça s'est bloqué par un veto américain. Alors, en fait, ce sont les crimes les plus abjects. Personne ne peut dire qu'il ne savait pas. Ça, d'une part. Et puis, d'autre part, on voit des instances dites internationales pour les droits de l'homme, pour la paix, etc., pour la paix entre les peuples, pour arrêter la guerre, etc. Tous ces organismes sont complètement bloqués. Du dire même du secrétaire général de l'ONU, Guterres, et on voit donc que Israël, en plus, je voudrais rappeler quand même que le jour où Israël a commis ce crime abject lorsqu'il y a eu les Palestiniens affamés qui attendent effectivement les convois humanitaires et les paquets qui ont été aussi largués par parachute. En fait, c'était le jour de la réunion du Conseil des droits de l'homme. C'est dire à quel point c'est symbolique et Israël montre au monde entier à quel point elle fait fi de toutes ces instances et de toutes les règles qui régissent les guerres et toutes les règles et tous les droits des êtres humains et tous les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et tous les droits même alimentaires des peuples, etc. Elle montre ce message au monde, je m'en fous, je continue et je fais toujours le génocide que j'ai décidé de faire. Et voilà, donc un défi au monde entier et que personne n'arrive à arrêter à cause justement de ces vétos américains qui protègent. Et alors que les États-Unis, par la voix de Biden, fait mine d'avoir du mal pour les Palestiniens, etc., et demande à ce qu'il y ait moins de morts civiles, etc. Alors tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est pour endormir la vigilance du monde, pour endormir la vigilance de la résistance palestinienne, la vigilance des peuples qui protestent et qui affirment tous les jours et toutes les heures leur soutien au peuple palestinien. Et donc, franchement, les États-Unis sont tout aussi criminels qu'Israël pour le génocide. Et c'est eux aussi qu'il faut incriminer pour ça, ainsi que tous les pays occidentaux qui aujourd'hui soutiennent Israël, aussi en étant soumis au diktat américain.
Merci, Aïssar. Madame Houballa, alors l'enclave palestinienne, la bande de Gaza, est sous blocus depuis 2007 et sous un blocus total depuis le 7 octobre. Alors, selon l'ONU et les organisations internationales, la bande de Gaza n'a pas d'accès à l'aide humanitaire depuis il y a plus d'un mois et que l'enclave palestinienne est au bord de la famine. Alors, j'aimerais bien citer le message du porte-parole de la diplomatie iranienne qui a réagi à ce drame sur son compte X, ex-Twitter. Il a dit que la blessure de Gaza ne sera pas effacée de la mémoire des peuples libres du monde et la honte de soutenir et de garder le silence face au massacre et au génocide des Palestiniens par le régime criminel sioniste sera évidente sur le front des faux champions des droits de l'homme aux États-Unis et en Europe. Alors, comment réagissez-vous face à ce nouveau drame ?
Qu'est-ce que vous voulez que j'étais en train de parler en fait avec Madame Lamy et on était d'accord. Ça sert à rien de parler. Excusez-moi là vraiment, je vais faire un coup de gueule, mais j'en ai marre qu'on parle et qu'on analyse de manière géopolitique, droit international. Qu'est-ce que l'ONU dit, le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il dit. Mais j'en ai rien à foutre. Quand vous voyez ce massacre, c'est pas un massacre, c'est un carnage de 110 personnes qui sont un carnage. Comment ça est fait. Oui. Ça a été fait. Ils ont été fusillés, c'est ça? Ils ont été fusillés pourquoi? Parce qu'ils allaient chercher de la nourriture. Quand vous avez tous les 5 jours un enfant qui mange, il mange une fois par tous les 5 jours. Et là, à quoi ça sert de faire des condamnations? À quoi ça sert? Il faut agir. À quoi ça sert même de faire des manifestations? Je remercie les peuples occidentaux de faire des manifestations. Que font les peuples arabes? Rien. Ils sont juste assis en train de regarder et de fumer leur narguilé, ou bien d'aller voir des festivals de chansons, etc. Mais par où, d'où qu'est-ce que je vais parler? Moi, je vais vous dire une chose. Quand on ouvre Google, Wikipédia, qui n'est pas censé être, qui n'est pas une source fiable, mais que tous les gens suivent. Vous savez qu'est-ce qu'est la définition de la Shoah? Vous savez ce que c'est la définition de la Shoah? Ils disent que c'est une entreprise d'extermination systématique qui a été menée par l'Allemagne nazie contre le peuple juif. Eh bien, que fait aujourd'hui Israël, entre guillemets? C'est pas une extermination systématique? Oui ou non? Quand vous avez, quand ils écrivent que la Shoah, c'est-à-dire fusillade, malnutrition, travaux forcés, et est-ce que les chambres à gaz, ils n'ont pas encore appliqué les chambres à gaz contre le peuple palestinien. Quand ils disent dans la Shoah qu'il y a eu 5 à 6 millions de Juifs qui ont disparu, vous avez 2,5 millions de Palestiniens dans Rafah. Ils menacent justement de faire une incursion terrestre. C'est pas la Shoah palestinienne, là? De quoi voulez-vous que je parle? Dites-moi. De quoi? Massacre?
Absolument.
On a appris ça, massacre à la farine à Gaza. Et après, vous avez, alors là, c'est le sommet, vous avez le premier ministre britannique qui est affolé. Et parce que George Galloway a réussi les élections qui sont en train d'avoir lieu actuellement en Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce qu'il a glorifié le Hezbollah et parce que il a réussi à être élu après 21 ans d'être exclu justement de la vie politique. Pourquoi? Parce qu'il a soutenu Gaza. Mais dans quel monde vivons? Vous avez un député français qui a demandé l'expulsion de l'ambassadrice israélienne et la rupture des relations avec elle. Vous avez à Cuba le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, qui a affirmé que Cuba ne restera jamais indifférente aux crimes commis par Israël. Et il a demandé à ce qu'il y ait une mobilisation populaire exceptionnelle pour rejeter le génocide israélien. Vous avez le 8e sommet du groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes qui ont condamné les massacres. Le journal britannique The Guardian a confirmé qu'il y a plus de 200 représentants de 12 pays qui s'unissent pour faire pression en faveur d'une interdiction des votes d'armes. Et en face, qu'est-ce que vous avez? Où sont les peuples arabes? Où sont-ils? Même les régimes qui ont normalisé. Vous ne pouvez pas menacer l'entité sioniste, je ne veux pas dire par le pétrole, mais au moins, si vous êtes autant, vous croyez autant en l'entité sioniste, au moins menacer de faire une rupture des relations diplomatiques entre eux. Fermez l'ambassade israélienne chez vous, ou bien convoquer l'ambassadeur israélien. Rien.
Absolument.
Ben j'en ai marre d'analyser, et quand je vois des enfants qui sont en train de mourir de faim tous les jours.
De souffrir. Exactement.
Pas de souffrir, de mourir.
Exactement.
Personne n'a bougé quand il y a eu... Personne n'a bougé, c'est que des condamnations quand ils sont rentrés à l'hôpital, dans les hôpitaux. Et puis après, il y avait plus les opérations qui avaient lieu, les opérations chirurgicales pour les patients, pour les enfants, c'est sans anesthésie. Rien, personne n'a bougé. On s'en fout. Et le pire, qu'on vous avez dit que la version israélienne, c'était quoi? C'était une bousculade. Mais vous savez ce qu'ils ont diffusé hier sur la chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadeen? C'est incroyable le mensonge. Le mensonge est arrivé d'une manière arrogante. Ils nous prennent pour des cons. Je suis désolée, ils nous prennent pour des cons. C'est qu'ils ont montré, le drone israélien a filmé et a diffusé des images montrant qu'il y avait des hommes et qu'il n'y avait aucune bousculade et qu'ils étaient en train d'attendre en fait que les aides humanitaires arrivent pour pouvoir justement prendre
leur de la famille.
Puis tout cela.
Ce sont leurs images à eux qui ont démenti la version israélienne du porte-parole de l'armée israélienne.
Exactement. Exactement. Alors, quelle qu'en soit la raison, vous avez complètement raison, totalement raison, quelle que soit la raison, carnage ou bousculade, tous ces mots-là. Alors, c'est la catastrophe de trop à Gaza, mais une vérité qui est claire. Et peut-on conclure alors cette vérité en cette phrase, qu'ils sont tous été tués par la guerre et il est par l'agression, par une campagne de génocide, par une machine de tuerie systématique, et il est temps d'en finir une fois pour toutes. Alors, Madame Midani, on assiste aux meurtres de civils systématiquement, intentionnellement par Israël. Il les affame, une foule qui est affamée et puis tirée dessous.
Oui, mais il faut quand même aussi rappeler que depuis le 7 octobre, le blocus a été renforcé sur Gaza, qu'il n'y a absolument aucune aide alimentaire. Et même quand il y en a qui filtre, ça correspond à une goutte dans un océan par rapport aux besoins. Qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas de combustible, que c'est un temps de froid et terrible en plein hiver, que les gens, on leur a détruit leur maison, qu'ils sont dans la rue, ils sont sous la pluie, dans le froid, femmes, enfants et familles. C'est une situation. Et par-dessus le marché, ils sont bombardés nuit et jour et ils n'ont plus... vous savez que même les centres d'hébergement ont été attaqués, les écoles, les centres de l'UNRWA sont attaqués et bombardés. Donc, en fait, c'est un génocide qui continue... à s'affirmer et affirmer sa volonté. Ça montre aussi, il y a aussi le plan quand même d'exode massif des Palestiniens vers le Sinaï. Il y a la volonté vraiment d'anéantir la Palestine, en fait, puisque les plans on en parle pas, mais de manière, en faisant des allusions, les Israéliens veulent s'approprier la bande de Gaza pour y faire aussi déjà ce fameux canal Ben Gurion. C'est aussi on voit que sur des agences de vente et des agences touristiques qui vendent des maisons d'avenir aux Israéliens à Gaza. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont absolument abjectes qui se déroulent en ce moment, avec des rumeurs comme quoi l'Égypte a accepté effectivement que les Palestiniens aillent dans le Sinaï contre un moratoire des dettes égyptiennes. Tout ça, ça verse effectivement dans la colère qu'a exprimée Dr Hubala de manière tout à fait juste, et qui est la colère, à mon avis, de tous les peuples arabes qui ont une conscience, mais qui, d'un autre côté, sont complètement réprimés, notamment en Égypte, et empêchés de manifester leur soutien. En Jordanie, c'est pareil, il y a eu énormément de manifestations de soutien, et même des résistants qui ont voulu aller se battre aux côtés des Palestiniens, qui ont été empêchés et combattus aussi par les armées arabes, qui devraient être au contraire aux côtés des Palestiniens et pas contre les personnes de leur peuple qui soutiennent les Palestiniens. Donc, en fait, moi, effectivement, j'ajoute ma voix à celle de Dr Hubala pour exprimer non seulement ma révolte face à tout cela, et aussi, je voudrais aussi saluer tous les peuples du monde qui soutiennent les Palestiniens, et tous les responsables aussi politiques courageux qui soutiennent et affirment leur soutien, non seulement des Palestiniens, mais en fait du droit de vie et du droit à la liberté et du droit du peuple palestinien à sa détermination, et aussi, surtout, à l'indépendance. Et là, je salue effectivement George Galloway qui a toujours affirmé ses principes, hein, et je salue bien sûr et surtout tous les résistants de la résistance palestinienne, toutes les parties de la résistance palestinienne, libanaise, yéménite, syrienne et irakienne, et toutes les résistances arabes qui se battent aux côtés du peuple palestinien et surtout à Gaza.
Merci Aïssar. On va conclure ce débat avec Madame Hopala. Alors, je vous laisse conclure, Madame. Nous avons 2 minutes devant nous.
Oui, brièvement. D'abord, concernant les condamnations qui sont exprimées de la part de tous les pays occidentaux arabes contre ce qui se passe justement contre le peuple palestinien à Gaza. Moi, je voudrais juste souligner quelque chose. Les condamnations sont efficaces face à un pays qui a des valeurs morales. Or, l'entité sioniste n'a que faire de ces condamnations. Elle n'a aucune valeur morale. Et donc, il faut agir contre un tel criminel et non pas faire des condamnations. Premier point. Deuxième point, vous savez ce que c'est le fémicide ? Le fémicide, c'est quand on a un génocide contre des femmes. Et bien, ce qui se passe actuellement à Gaza, c'est un fémicide. C'est-à-dire, vous avez 70% des 30 000 martyrs, sans compter les 60 000 ou 50 000 qui sont encore sous les décombres, qui sont des femmes. Et vous avez parmi les 25 000 femmes enceintes actuellement à Gaza sont menacées de faim. Où sont les féministes qui se vantent de la défense des droits de la femme? Où sont-elles? Où sont leurs voix? Où est Hillary Clinton qui défend toujours, soi-disant, le droit des femmes? J'aimerais bien l'entendre. Où sont-elles, ces femmes? Ou bien non, je suis désolée. Ah non, les femmes palestiniennes ne sont pas des êtres humains.
Merci.
Elle encourage le génocide, Hillary Clinton. Et là, je voudrais dire, oui, là, je voudrais quand même finir par dire, quand même, vive la liberté des peuples. Et de toute façon, il est certain que c'est l'avenir, c'est demain.
Merci beaucoup, Aïssar Midani et Madame Rada Hopala, d'avoir participé à ce débat. Et merci à vous, amis téléspectateurs. Au revoir, à la prochaine.
Au revoir.
Merci.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, merci de nous rejoindre sur une nouvelle édition de l'Afrique économie depuis la capitale iranienne, Téhéran. Nous allons passer en revue l'actualité économique africaine. Restez avec nous. Au Togo, plusieurs poids lourds du transport maritime mondial rejoignent le port sec de la Pia. Implanté au cœur de la plateforme industrielle d'Adeticopé, fruit d'un partenariat entre le groupe Arise IIP et l'État togolais, opérationnel depuis seulement 2022, le port sec d'Adeticopé a récemment obtenu la confiance de poids lourds du transport maritime mondial. Au Togo, le port sec franc de la plateforme industrielle d'Adeticopé est actuellement en plein processus de transfert. Des conteneurs enregistrent l'arrivée d'acteurs de poids du transport maritime mondial. L'italo-suisse MSC, le danois Marx, le français CMA-CGM, le singapourien PIL, le français CMA-CGM ou encore le japonais WAN se sont ralliés, a annoncé mercredi 28 février le ministre de l'économie maritime Edem Kuku Tenge. L'adhésion de ces géants du secteur, membres du top 12 des plus gros amateurs de ports conteneurs de la planète et représentant plus de 90% du marché mondial, a été confirmée à la faveur d'une réunion avec les acteurs du circuit logistique. La mine la plus profonde du monde contribuera à la production d'or en Afrique du Sud jusqu'en 2044. Autrefois premier producteur mondial d'or, l'Afrique du Sud a vu ses performances décliner depuis quelques décennies en raison notamment de la difficulté à accéder à des mines toujours plus profondes. Des mines toujours plus profondes et quelques actifs permettent cependant au pays de continuer à jouer les premiers rôles en Afrique. L'Afrique du Sud, qui fait face à une baisse de la production nationale d'or ces dernières années, pourra encore compter sur la mine Poneng pendant au moins deux décennies. Son propriétaire Harmony Gold a en effet annoncé le 28 février l'approbation d'un investissement de 7,9 milliards de rands pour prolonger la durée de vie de la mine de 7 ans à 20 ans, soit jusqu'en 2044. Ce projet devrait ajouter 3,05 millions d'onces aux réserves de la mine. À défaut d'aider l'Afrique du Sud à retrouver le statut de premier producteur africain d'or perdu depuis 2018, à part une exception en 2021, l'extension de la durée de Poneng constitue l'une des rares éclaircies dans l'exploitation de l'or en Afrique du Sud et plus largement dans le secteur minier local. En Tanzanie, deux compagnies chinoises recrutées pour l'installation de 15 unités de stockage de produits pétroliers. Le gouvernement tanzanien opère des choix stratégiques pour soutenir l'approvisionnement de la Tanzanie en produits pétroliers dans un contexte d'instabilité des marchés énergétiques. Makame Barawa, le ministre des Transports de la Tanzanie, a annoncé le 27 février l'octroi d'un marché pour la construction de réservoirs et d'installations connexes destinées à la réception, au stockage et à la distribution de produits pétroliers au port de Dar es Salaam. Le marché implique deux sociétés chinoises, à savoir China Railway Major, Bridge Engineer Group et One Engineering, dont les cahiers de charges couvrent la construction de 15 réservoirs de produits pétroliers, d'une capacité totale de stockage de 420 000 m3. Ce projet d'infrastructure pétrolière est budgétisé à hauteur de 678,6 milliards de shillings tanzaniens, soit environ 266 millions de dollars. L'objectif est d'améliorer l'efficacité de la manutention des marchandises au port de Dar es Salaam, le plus important du pays après ceux de Tanga et de Wara. L'Éthiopie Zemen Bank obtient une garantie de 30 millions de dollars de la SFI pour ses opérations de financement du commerce. La banque éthiopienne négocie ce financement depuis le début du mois de décembre 2023. Au cours de cette année, elle a accordé 25,19% du total de ses prêts aux sociétés de commerce intérieur à hauteur de 180,6 millions de dollars. La banque commerciale éthiopienne Zemen Bank a conclu le jeudi 22 février 2024 un accord de garantie de 30 millions de dollars avec la Société financière internationale au titre du mécanisme de financement du commerce. Cette garantie couvrira partiellement la banque en cas de risque de crédit émanant de ses opérations de financement du commerce. Elle sera complétée par des services de conseil visant à renforcer ses activités en matière de gestion de crédit et gestion des risques sur des prêts aux petites et moyennes entreprises. Le programme augmentera considérablement le financement du commerce pour de nombreuses entreprises d'import-export, en particulier pendant les périodes de volatilité économique mondiale, a déclaré Atou Régé, PDG de Zemen Bank. Thank you. Les ventes du plus grand producteur africain de diamants ont baissé de 25% en 2023. Le Botswana est le premier producteur africain de diamants. Dans le pays, le gouvernement exploite plusieurs mines, notamment en partenariat avec De Beers dans le cadre d'une entreprise dénommée Debswana. Cette dernière a produit 24,7 millions de carats en 2022. Au Botswana, les ventes du premier producteur africain du diamant, Debswana, ont baissé de 25% à 3,44 milliards de dollars en 2023. C'est ce que montrent des données de la Banque centrale du Botswana publiées le 29 février, reflétant l'impact sur l'entreprise de la baisse de la demande et des prix sur le marché mondial des diamants l'année dernière. Ce ralentissement du marché a notamment obligé à mettre en place des restrictions sur l'offre afin de favoriser une remontée des prix. Alors que les producteurs ont rapporté ces derniers mois une légère amélioration sur le marché, notons que Debswana veut rester prudente cette année et envisage une réduction de sa production.